Bonjour Marie-Jo, bonjour à ceux qui sont à la maison, bonjour à tous ceux qui sont présents. Ça fait bizarre de se dire bonjour quand on vient de passer un bon moment ensemble, en communion les uns avec les autres, en communion avec notre Seigneur. Waouh, moi je suis émerveillée de voir ce que le Seigneur fait, dimanche après dimanche, semaine après semaine. Voilà ce que c'est quand on persévère à chercher sa face, à nous mettre ensemble pour multiplier nos forces, ou plutôt que la force du Seigneur se multiplie. Waouh, qu'est-ce que le Seigneur va faire? Qu'est-ce que le Seigneur va faire dans l'avenir? Je me réjouis. Juste comme ça, en passant, je suis dans le Proverbe 3, à partir du verset 5, mais ce n'est pas le texte du jour. Mais je vous le lis quand même. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Il y en a qui le connaissent. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Confie-toi en l'Éternel, ne t'appuie pas sur ta propre sagesse, ne sois point sage à tes propres yeux. Ce n'est pas le texte du jour, mais ça l'introduit bien. Voilà, ça fait des semaines qu'on nous parle de blackout, contingentement, pénurie d'électricité, pénurie de gaz, l'hiver va être froid et les factures salées. Pénurie, manque, vide, famine. Voilà ce qu'on nous annonce. Et au-delà des problèmes énergétiques, ça nous arrive à tous de traverser des famines. Famine financière, famine émotionnelle, famine professionnelle, famine spirituelle, famine conjugale. Les famines, elles peuvent être de toutes sortes. Elles peuvent être flagrantes et elles peuvent être subtiles. Alors, voilà, dans notre vie de disciple avec le Seigneur, eh bien, c'est vrai, la vie n'est pas toujours facile. C'est vrai qu'il y a des difficultés. Jésus nous a jamais dit « votre vie, ce sera un long fleuve tranquille ». Il nous a jamais dit « ce sera tout rose et bleu ciel ». Pas du tout. Il nous a dit « chargez-vous de votre croix ». La vie, elle n'est pas forcément facile. Mais elle est tellement différente avec le Seigneur. Confie-toi en l'Éternel et pas en ta propre sagesse. Surtout quand tu es dans une famine. Surtout quand tu traverses une famine. Alors le message de ce matin, il est destiné à nous aider à débusquer les idoles, débusquer les choses qui font que nous allons non nous confier en l'Éternel, mais nous confier en quelqu'un d'autre, en quelque chose d'autre et parfois en nous-mêmes. Et pour ça, je vous propose de reprendre l'histoire d'Abraham où nous l'avions laissé il y a 2 semaines. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Abraham, il est parti de Ur, tout au sud de la Mésopotamie, une ville importante où on y adore une multitude d'idoles, mais surtout le dieu lune. Et Dieu dit à Abraham de sortir d'Ur. Il sort d'Ur pour aller en Canaan, mais il s'arrête à Charan, tout au nord de la Mésopotamie. Et à Charan, tiens, comme par hasard, le dieu principal, c'est le dieu lune. Toujours le même, comme si la famille d'Abraham n'arrive pas à sortir de cette idolâtrie. Mais quand Abraham entre dans l'obéissance, sur la parole de l'Éternel, il sort de Charan et il va en Canaan, dans le pays promis, dans le pays que le Seigneur lui a promis de lui donner. Et qu'est-ce qu'il fait? Abraham arrive à Sichem, au cœur de la promesse, au cœur du pays promis, et là, ironie du sort, il arrive aux chênes de Morée. Chênes de Morée, c'est un lieu d'adoration des idoles. Mais Abraham bâtit un autel à l'Éternel et il invoque le nom de l'Éternel. Abraham ne se laisse pas séduire. Il est dans un endroit qui, pour l'instant, est encore hostile, mais il est en train de marquer son territoire spirituellement. Il est en train de prendre possession de son héritage, de sa promesse, de son appel, de l'appel qu'il a sur sa vie. Et il continue ses marches dans le pays, toujours pour explorer tout ce que le Seigneur lui a donné. Et à chaque fois, il bâtit un autel. Et à un moment donné, il va planter ses tentes entre Bethel et Haï. Bethel, c'est une ville, Bethel veut dire « maison de l'Éternel ». Haï veut dire « ruine ». Il est là au milieu, comme nous aujourd'hui. Nous sommes dans un monde où il y a un conflit spirituel, conflit entre la lumière et les ténèbres, entre le bien et le mal. Nous sommes dans le déjà et le pas encore. Nous appartenons déjà au Seigneur, mais nous sommes dans un monde corrompu. Mais nous avons dressé nos tentes et nous avons bâti un autel à l'Éternel. Notre vie de prière, notre adoration, notre louange, notre confiance en Dieu, c'est un autel qu'on dresse à l'Éternel. Et notre source, elle vient d'en haut. Elle vient de Dieu. Voilà où est Abraham. Mais, à un moment donné, Abraham, il entame une descente. Il y eut une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Comme il était prêt d'entrer dans le pays d'Égypte, il dit à Sarai, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront, et te laisseront la vie. Dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin que je sois bien traitée à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. » Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi, et la vantèrent à Pharaon. Et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle, et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarai, femme d'Abraham, et dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait ?» Il dit à Abraham, pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit c'est ma sœur? Aussi l'ai-je prise pour ma femme. Maintenant voici ta femme, prends-la, va-t'en. Et Pharaon donna ordre à ses gens de la renvoyer, de le renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Dehors. Waouh! Une vraie descente. Une vraie descente, bien plus une descente morale, une descente spirituelle qu'une descente géographique. Il y a une famine là où se trouve Abraham. Il décide de descendre en Égypte, il n'y a que 100 mètres de dénivelé, ce n'est pas grand-chose. Il y a une famine en Canaan. Les famines, ça peut arriver quand il y a des invasions de criquets. Ça peut arriver de manière consécutive à une guerre. Ça peut arriver quand il y a beaucoup trop de pluie à la mauvaise saison. Et ça ravage toutes les récoltes. Ça peut arriver quand il y a justement un manque de pluie. La terre de Canaan, elle est irriguée principalement ou presque exclusivement à cette époque par le Jourdain qui traverse le pays du nord au sud. Donc les plaines du Jourdain, tout ce qui est au bord du Jourdain, c'est irrigué. Mais dès qu'on est dans les déserts, c'est compliqué. Il y a des poches d'eau, des ouèdes. Mais pour qu'il y ait de l'eau dedans, il faut que ce soit la saison des pluies. Et il faut qu'à la saison des pluies, il y ait de la pluie. Et ce n'est pas toujours le cas. Alors la sécheresse, ce n'est pas rien. La famine, ce n'est pas rien. Abraham, il est encore avec Lot. Il a des serviteurs. Il a des grands troupeaux. Il est riche. Et ses troupeaux, il faut qu'ils broutent. Il faut qu'ils mangent. Si les troupeaux ne mangent pas, la famille d'Abraham ne mange pas. Et si on pousse un petit peu plus loin l'histoire, eh bien, en réalité, c'est une question de vie ou de mort. Cette famine, c'est un vrai problème. Et c'est comme pour nous. Quand nous traversons une famine, ce n'est pas forcément un petit problème. Parfois, c'est un petit problème. Aujourd'hui, je suis fatiguée, j'ai mal à la tête. OK, mais demain, ça ira mieux. C'est une petite famine. Quand tous les mois on a de la peine à joindre les deux bouts, ça commence à une famine un peu plus importante. Quand ça commence à devenir très difficile au niveau du couple, au niveau de la famille, c'est une famine qui commence à être vraiment handicapante, dangereuse. Les famines, elles peuvent être de toutes sortes et c'est des vrais problèmes. Ce n'est pas à minimiser. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'Abraham, il est au début de sa marche avec Dieu. C'est tout nouveau pour lui. Et jusqu'à maintenant, c'est comme s'il a fait un sans faute quand il est arrivé en Canaan, où à chaque étape, il a dressé un autel à l'Éternel. À chaque fois, il s'est confié en Dieu. Mais là, tout à coup, il se trouve devant une nouvelle difficulté, une difficulté apparemment plus grande que les autres. Et qu'est-ce qu'il fait? Il décide d'aller en Égypte. En fait, il se trouve dans un défi, un immense défi. Comment gérer cette famine? Et lui, sa solution, c'est l'Égypte. L'Égypte est irriguée principalement par le Nil, mais d'une manière beaucoup plus efficace que le Jourdain. En plus de ça, il y a des irrigations, il y a des canaux d'irrigation, il y a des digues, il y a une technologie qui fait que l'irrigation est beaucoup plus efficace, ce qui fait que c'est une valeur sûre au niveau alimentaire. Il y a beaucoup moins de risques qu'il y ait une famine. Donc ça paraît complètement légitime de partir en Égypte. Et même, peut-être que c'est Dieu qui a dit à Abraham d'aller en Égypte. Le texte ne nous le dit pas. Mais on peut avoir des doutes. On peut avoir des doutes parce que pour aller en Égypte, il faut sortir de Canaan. Il faut sortir de l'endroit où Abraham a planté ses tentes et où il a dressé des autels. Il faut sortir de la promesse. Il faut sortir de l'héritage. Il faut sortir de la présence de Dieu. Voilà pourquoi Abraham entame une descente morale et une descente spirituelle. Et même, à peine il sort de Canaan, qu'il plonge. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, « Voici, je sais que tu es une belle femme, une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, « C'est sa femme !» et ils me tueront. Ils te laisseront la vie. Dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin que je sois bien traitée à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. » Abraham va en Égypte. Il n'y a pas un seul moment où il est question qu'Abraham bâtit un autel quand il arrive en Égypte. Tout à coup, le confie-toi en l'Éternel, c'est plutôt « appuie-toi sur ta sagesse ». Ça commence à faire peur. Il y a quelque chose qui devient vraiment dangereux là-dedans. Abraham, il connaît les mœurs des Égyptiens, mais drôle de mœurs. Il est riche, il a une belle femme, il sait déjà qu'il va se la faire piquer. Mais c'est quoi ça? Et non seulement se la faire piquer, mais se faire tuer. Parce qu'il est mari d'une belle femme. Waouh! Mais quelle drôle de mœurs! Et pourtant, il y va quand même. Il persévère. Il est au courant, mais ça ne le retient pas. Il entre dans une sorte de compromis. Il est prêt à hypothéquer sa propre vie et il est prêt à hypothéquer son mariage. En plus de ça, il est prêt à mentir. « Dis, je te prie, que je suis ton frère !» Il entre dans le mensonge et il fait mentir sa femme. C'est une véritable plongée. Et le but pour lui, qu'est-ce que c'est? Qu'il soit bien traité. Qu'il soit bien traité par Pharaon et accessoirement qu'il ait la vie sauve. C'est vite fait la descente. Alors déjà, arrivé à ce stade, on peut se poser la question. Mais quelle sorte de famine pourrait me faire sortir de Canaan? Quelle sorte de famine pourrait me faire sortir de mon héritage, de mon appel, de ma relation avec Dieu, des promesses qui reposent sur ma vie? Qu'est-ce qui pourrait m'en faire sortir? Quelle solution de facilité? Des choses mesurables, vérifiables, visibles? Est-ce que dans mes décisions, il pourrait y avoir des dommages collatéraux, des effets secondaires? pour moi, pour les autres. Quand on traverse des familles, c'est assez facile de trouver un petit peu des voies de traverse. Il y avait un exemple que j'avais envie de prendre, c'est les finances. Parce que les famines financières, ben on nous les prédit déjà, mais même sans qu'on nous les prédise, ben ça arrive souvent. Plus on va de l'avant et plus c'est difficile. Qui n'a jamais eu de soucis financiers? C'est pas évident. Et même parfois, quand on n'a pas de soucis financiers, c'est quand même difficile. Parce qu'il y a un immense enjeu, parce qu'il y a l'enjeu d'une idole. Quand ça devient difficile au niveau des finances, on fait des économies. Puis on regarde où est-ce qu'on peut faire des économies. Eh bien, par exemple, au niveau spirituel, et j'en parle aujourd'hui parce que les finances de l'Église vont bien, les finances de l'Église sont saines, donc ne le prenez pas contre vous, au contraire, c'est un sujet de reconnaissance. Je vois que la compréhension de l'Église au niveau spirituel est là, et c'est un exemple à prendre. Mais quand on se dit, waouh, ça devient ric-rac au niveau financier, on peut se dire, allez, ben, ma dîme, je vais pas la donner, ou je donne juste un tout petit bout, juste quelque chose comme pour me soulager la conscience. Là, on est en train de se dire, mais en fait, je sors de ma confiance en Dieu pour me confier dans l'argent, ou me confier dans ce que je vais calculer. Alors, parfois, je veux pas être légaliste, surtout pas. Parfois, le Seigneur peut très bien te dire, ben, ce mois-ci, tu ne donnes rien à l'Église, parce que j'aimerais que tu aies confiance que je vais continuer à t'aimer. Et c'est ce qu'il faut faire, justement, pour ne pas avoir peur de manquer de l'amour de Dieu. Il faut donner dans le bon état d'esprit. Mais quand je me dis, allez, j'ai besoin de cet argent et j'ai peur de manquer, et que je me dis, bah, ça, c'est quelque chose, personne ne le contrôle. Il y a juste des boîtes là, personne ne sait combien je donne ou si je ne donne pas, donc je ne vais pas donner. Eh bien, il y a quelque chose qui se passe dans le cœur pour se dire, bah, moi, je ne mets plus ma confiance en l'Éternel, mais dans l'argent. Et là, il y a une idole à débusquer. Par contre, quand tu sais que tu es dans la difficulté, puis tu dis, ok Seigneur, je te mets au défi parce que ta parole me le demande, alors moi je donne, mais j'ai besoin de voir comment tu vas agir dans ma vie. Et il y a quelque chose au niveau de la foi, un mécanisme qui se met en place pour voir Dieu agir. Et ça, c'est une façon de dresser un autel à l'Éternel. Seigneur, tu me dis de donner, tu me dis que les richesses t'appartiennent. Eh bien, moi, je te les donne parce que toi seul, tu es mon Dieu. Et ce n'est pas l'argent qui va diriger ma vie. Et tout à coup, il y a des circonstances qui commencent à se favoriser pour vous. Tout à coup, les choses vont se mettre en place en votre faveur. Pas de la manière dont vous l'aurez forcément pensé ou réfléchi ou espéré, mais vous allez voir que Dieu agit. Et pour ça, il faut sortir vos antennes spirituelles pour comprendre comment Dieu agit. Voilà, ça c'est un exemple de finance. Je le prends pas pour vous dire il y a un problème financier, au contraire. Je crois que l'Église a compris. Je crois que vous avez compris parce que les finances sont saines et c'est un sujet de reconnaissance. Alors, cet état de foi-là, c'est ce qu'il faut trouver dans chaque domaine de notre vie, chaque fois qu'on traverse une famine. Qui est mon Dieu? À qui est-ce que je fais confiance? Abraham, il sait qu'il y aura des effets secondaires, il sait qu'il y aura des problèmes. Mais pour l'heure, il est aveuglé et il persévère dans son erreur. Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon, et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle. Et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs, des servantes, des ânesses et des chameaux. Non mais imaginez comme Abraham a été bien traité. Tout se passe comme il l'avait prévu. Effectivement, sa femme se fait emmener et effectivement, il est couvert de biens. J'avais raison. Abondance, plus de problèmes. Mais à quoi pensait Abraham? Ce qu'il faut bien comprendre dans l'histoire, c'est que si Abraham était le mari de Sarai, ben il pouvait simplement se faire tuer et Pharaon ramassait toutes ses richesses, la femme, et on n'en parle plus. Si Abraham est le frère de Sarai, Eh bien, au niveau culturel, quand on veut épouser une femme, il faut aller demander sa main à son père. Et en l'absence du père, on va demander au frère. Et le frère, il va commencer des tractations, il va faire durer le processus pour s'enrichir d'une part, pour essayer de négocier la dot. Mais dans ce cas-là, on peut se dire, ben, peut-être qu'Abraham voulait faire durer pour que Sarah ne puisse jamais être épousée. Mais combien de temps il pensait que ça allait tenir? Il avait affaire à Pharaon. Qu'est-ce qui se passait dans sa tête? Il est aveuglé parce qu'il est bien traité et parce qu'il a la vie sauve. Mais Sarai, est-ce qu'il y a un seul moment où il pense à elle? Sarai qui est emmenée au palais, en fait elle est captive, elle est esclave. Quelle sorte d'esclave? Vous me direz, à ce moment-là, elle a 65 ans. Mais on est dans une autre culture, à une autre époque. Est-ce que Sarai était une esclave sexuelle? Est-ce qu'elle était dans le harem de Pharaon? Ou elle était esclave pour des tâches ménagères? Toujours est-il qu'elle est captive, qu'elle est esclave. Et Abraham, lui qui croyait être couvert de biens, pas du tout. Pas du tout. Lui, il est pauvre. Lui, il est pauvre, il a rien, mais il a tout perdu. Il est complètement brisé dans son intérieur. On lui a piqué sa femme. On lui a piqué la chair de sa chair. Et en plus de ça, il est séparé de Dieu. Et il est captif. Il est captif de son mensonge. Comment s'en sortir? Il n'a rien pour s'en sortir. Juste pour l'instant, de la poudre aux yeux. Il est enchaîné, esclave, loin de Dieu. Alors voilà, Abraham. Abraham qui a quitté Ur, un pays d'idoles, s'est retrouvé à Charan où il y avait des idoles. Mais à un moment donné, il obéit et il arrive à Canaan. Et là, il résiste. Mais survient une bonne, vraie, grosse difficulté. Et il se trouve dans une forme d'idolâtrie. Il a voulu chercher la solution en lui-même. C'est presque comme si son intelligence, ses réflexions, sa personne même devenait un peu l'idole. Et il a cherché la solution dans sa femme. À cause de toi, je serai bien traité. À cause de toi, grâce à toi, j'aurai la vie sauve. Mais non, la vie sauve, elle vient de Dieu. Autrement dit, Sarai devient une idole. Abraham, il met sa confiance en Sarai. Mais en plus de ça, l'idole, c'est Pharaon. Il me couvrira de bien, de richesse. Abraham met sa confiance en Pharaon. Il n'y a pas un moment dans cet épisode égyptien où Abraham dresse un autel à l'Éternel et lui dit « Éternel, je reconnais que c'est toi qui pourvois. Comment je dois m'en sortir dans cette famine ?» Pas un moment. Et ça, il faut que ça nous parle. Quand on s'entête, quand on persévère, quand on tourne en rond dans des problématiques, c'est bien de se poser la question, mais ça fait combien de temps que je n'ai pas dressé un autel à l'Éternel? Ça fait combien de temps que je ne l'ai pas reconnu dans mes voies? Ça fait combien de temps que dans cette problématique, dans cette famine, je ne l'ai pas invité? Quand je n'ai pas demandé de venir nettoyer mes pensées, d'ouvrir mes yeux pour que je voie comment je dois comprendre cette épreuve, comment je dois la vivre, quelle est la prochaine étape. Abraham, il voulait être couvert de bien. Ça me fait du bien. Peu importe les dommages collatéraux. C'est un peu comme, je prends peut-être une situation un peu extrême dans un monde où nous sommes chrétiens, où nous connaissons ces choses. Mais c'est comme quand on a un problème de santé. Allez, on a un problème de verrue. Ben, qu'est-ce qu'on fait? On va demander la prière. Oui, mais j'ai déjà demandé la prière plein de fois et ça ne marche pas. Je vais aller faire le secret. Le secret, au moins, ça marche. Ben, c'est vrai. C'est vrai. Si tu vas faire le secret, tes verrues, certainement qu'elles vont disparaître. Mais elles ne vont pas disparaître par hasard. Elles vont disparaître parce qu'il y a une puissance qui agit. Et que si ça s'appelle le secret, c'est parce qu'il y a quelque chose de secret. Il y a quelque chose qui se fait dans le secret. Il y a quelque chose, vous n'en êtes pas informé, vous ne savez pas ce que c'est, mais la personne qui fait le secret va secrètement vous liez à Satan d'une manière ou d'une autre par des pratiques occultes. Mais vous, vous n'avez plus de verrues. Seulement, vous n'êtes pas libre. Vous n'êtes pas couvert de bien. Vous êtes esclave. Vous êtes esclave de ces liens spirituels. Eh bien, c'est ce principe-là. C'est ce principe-là dans nos choix, quand on se dit « ça me fait du bien, ben c'est ma solution ». Si cette solution, elle n'est pas purifiée par Dieu, si elle n'est pas pleinement dans la vérité, si elle n'est pas dans la volonté de Dieu, ça nous emmène dans un esclavage. Et parfois, c'est extrêmement subtil. Là, je vous parle de sujets que vous connaissez, mais des fois, c'est tellement subtil dans la vie de tous les jours. Juste un petit mensonge, juste une petite triche, juste une petite virgule par mégarde, on s'est trompé sur notre feuille d'impôt. Vite aller déposer nos plaques au Valais parce que c'est moins cher que dans le canton de Neuchâtel. Mais oui, c'est des choses qui se font. Comment est-ce qu'on fait pour marcher dans la vérité? Il faut s'éloigner de ces choses-là, il faut dresser des autels à l'Éternel, le reconnaître dans toutes nos voies. Pour Abraham, toute cette histoire, c'était de la poudre aux yeux. Et ça a duré un certain temps. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Mais qu'est-ce que c'était que ces plaies? On ne sait pas. On ne sait pas, mais si on se réfère au vocabulaire qui est utilisé et aussi à certains événements similaires qui ont eu lieu plus tard, on peut comprendre qu'il s'agissait certainement de problèmes avec une connotation sexuelle, des problèmes conjugaux, des problèmes qui touchent à ce domaine-là ou des problèmes fertilité, stérilité. Et pour que tout ça, ça commence à être identifié, commencer à comprendre qu'il y a ce problème-là, que ça vient de la femme d'Abraham, eh ben ça a dû prendre un certain temps. Si tout à coup il commence à y avoir un problème de stérilité dans une population, ben ça va prendre plus que 3 jours pour se rendre compte. Il va falloir des semaines, des mois, peut-être une année, 2 années, 3 ans. Combien de temps Sarah est restée coincée dans ce palais? Combien de fois est-ce qu'Abraham et Sarah ont été séparés? Ça a duré. Ça a duré. Et Abraham était loin de sa promesse. Avec Sarah, ils avaient la promesse d'une descendance. C'était un peu compliqué d'avoir une descendance dans ce cas-là. Mais l'Éternel fait grâce. L'Éternel fait grâce. Il n'a pas été d'accord que cette situation continue. Il y met un terme. Il envoie un fléau. Ça n'a pas dû être facile. Et même pour Abraham, je pense que ça a été la honte de sa vie. Alors Pharaon appela Abraham et dit « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit « c'est ma sœur » Aussi, je l'ai prise pour ma femme. Aussi, tu t'es fait piquer ta femme. Maintenant, tu as brisé ton âme, tu as perdu ton âme. Tu es brisé, tu es meurtri de l'intérieur, mais pourquoi as-tu fait ça? Ben, prends tout ce qui t'appartient, prends ta femme et va-t'en dehors. Si vous me permettez l'expression, Abraham s'est repris un coup de pied au derrière. Dehors. Et il est reparti la queue entre les jambes. Comment est-ce qu'il fallait qu'il regarde Sarai? Coucou. Waouh. Imaginez un peu l'ambiance entre les deux. A pas osé lui poser la question, mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait là-bas? Comment ça s'est passé? Waouh. Waouh. Parfois, quand on est dans ce genre de famine, quand on s'entête dans cette situation, quand on persévère dans une erreur, Dieu nous fait grâce et Dieu nous donne ce coup de pied au derrière. Il nous dit maintenant, ça suffit. Et il arrête les choses. Et il peut les arrêter de plein de manières différentes. Il nous connaît tous, il connaît nos circonstances. À nous de savoir comment est-ce qu'on va faire pour revenir à lui. Parce que c'est sa grâce. C'est sa grâce quand le Seigneur nous arrête alors qu'on est dans l'erreur. Quelque part, c'est encore une nouvelle famine, mais c'est une famine à vivre avec lui, avec sa grâce, avec sa conduite, avec son soutien. Genèse 13, Abraham remonta d'Égypte vers le midi, vers le sud de Canaan. Lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Bethel et Aï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Abraham sort d'Égypte. Il revient au point de départ. Il revient dans sa promesse. Il revient dans son appel. Il revient dans tout ce qu'il a reçu comme prophétie. Il revient dans sa bénédiction. Mais ça ne se fait pas en un jour. Il a beaucoup de troupeaux. Il doit traverser le désert du Néguev avec des troupeaux qui doivent brouter, qui doivent manger, qui doivent pâturer. Alors il faut se déplacer, il faut trouver dans quel endroit il y a assez à manger pour les troupeaux, et ensuite se déplacer dans un autre endroit, et d'aller d'endroit en endroit, jusqu'à ce qu'enfin il retrouve l'endroit du commencement. C'est ce que nous avons à faire. Parfois, remonter la pente, c'est pas facile, mais c'est normal. C'est normal qu'il y ait des étapes. C'est normal qu'on ne puisse pas résoudre nos problèmes ou nos erreurs d'un coup. Là aussi, il faut agir avec sagesse. Mais Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Il n'a pas enlevé la promesse qu'il a faite à Abraham. On pourra le voir plus tard, mais cette promesse, même Dieu l'a enrichie. Il a donné encore plus de précision. Abraham est devenu une source de bénédiction. Toutes les nations de la terre sont bénis en Abraham. Il est le père des croyants. Et si Abraham n'avait pas obéi à Dieu, nous ne serions pas là ce matin. Mais il a dû apprendre comme nous. Il était un homme de la même trempe que nous, et lui aussi s'est trompé. Et nous avons aussi le droit de nous tromper. Ce qui est important, c'est de ne pas rester en Égypte, mais c'est de remonter, de revenir entre Bethel et Aï, là où il y a l'autel, là où il y a notre communion avec le Seigneur, là où nous nous confions en l'Éternel et non sur notre propre sagesse, là où nous ne sommes pas intelligents à nos propres yeux, mais nous reconnaissons l'Éternel dans toutes nos voies. Et quand on le reconnaît dans toutes nos voies, il aplanit nos sentiers. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel. Détourne-toi du mal, ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Toute ta personne, tout ton être unifié sera béni de mettre ta confiance dans l'Éternel, de dresser un autel à l'Éternel. Retrouve ta communion avec Dieu, retrouve ta vie de prière, retrouve ton intimité. Demande au Seigneur de t'aider à trouver ce chemin, à trouver cette voie. Et que les anges puissent commencer à monter et à descendre quand tu es dans ta chambre, quand tu es dans la forêt, quand tu es là où tu vas prier. Dans cet endroit d'intimité, le Seigneur va commencer à te visiter, à visiter ton cœur. Il va commencer à illuminer tes pensées et à te dire, tu vois, c'est par là que j'aimerais que tu commences. Regarde comme je te bénis. Regarde, regarde quand tu es dans l'obéissance, comment je vais te bénir, je vais t'encourager. Regarde comment tu vas persévérer, ça va t'encourager. Regarde toutes les victoires que tu vas remporter. Regarde combien je t'aime. Si vous traversez une famine, je vous encourage à prendre ces paroles de Proverbe 3, les versets 5 à 8. Proverbe 3, 5 à 8. Écrivez-les, notez-les, gravez-les. Écrivez-le sur le miroir de votre salle de bain. Écrivez-le sur des post-it que vous allez mettre dans votre cuisine. Écrivez-les sur votre journal de prière. Écrivez-le dans votre chambre à coucher. Écrivez-le dans votre salon. Et lisez-le. Lisez-le régulièrement. Encouragez, exhortez votre âme, confie-toi. Flo, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Moi, je sais ce que ça fait quand je m'appuie sur ma sagesse. C'est pas génial. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Mais regarde, le Seigneur, lui, il est tellement sage, il est tellement bon, il a tout pour toi. C'est lui qui pourvoit. C'est lui qui sait mieux que toi ce qui est bon pour toi. Écrivez ces paroles. Il faut vous les approprier, il faut vous les tourner, il faut les manger, il faut les méditer, il faut les vivre. Et le Saint-Esprit vous aidera à le faire. Seigneur, merci parce que tu es tellement bon, tu es tellement fidèle. Seigneur, c'est difficile cette prédication, c'est difficile de se plonger dans un texte où on descend dans les ténèbres, dans le mensonge, dans le compromis, alors qu'on vient de passer un temps de louange tellement fort. Mais justement, tu connais nos vies, tu connais nos famines, tu connais l'état de nos cœurs, tu connais nos limites, tu sais que sans toi nous ne pouvons rien faire, sans toi nous sommes complètement déchus, sans toi nous sommes dans la ruine, notre vie est en ruine sans toi. Mais merci Seigneur parce que tu as payé le prix fort, Jésus tu as payé pour nous, tu as pris à ta croix nos compromis, nos mensonges, nos erreurs, nos failles, nos faiblesses, nos indélicatesses, nos maladresses. Jésus, merci parce que tu as triomphé de notre péché à la croix et tu nous donnes la vie par ton sang, par tes meurtrissures. Alors je te demande encore maintenant, par ton esprit, par la volonté du Père qui est de nous aider, de nous aimer, de nous relever, je te demande que ton esprit vienne restaurer nos âmes, que ton esprit vienne restaurer nos cœurs. Je te demande de mettre dans nos cœurs un esprit de conviction, de sainteté. Que nos cœurs soient convaincus de marcher dans la vérité. Montre-nous comment sortir de nos situations lorsqu'elles ne sont pas dans ta volonté. Montre-nous comment marcher dans la vérité. Apprends-nous tes voies. Prends-nous par la main, conduis-nous d'étape en étape. Apprends-nous à dresser un autel. Je te demande de venir maintenant restaurer chaque personne qui en a besoin, que chacun puisse ressentir dans son cœur par où commencer, que chacun puisse recevoir un encouragement de ta part, puisse voir ta lumière dans les ténèbres, puisse voir que tu brilles, que chacun puisse voir et goûter à ta grâce, à ta paix, à ton pardon. Ô Seigneur, et qu'ensemble, nous puissions tous nous encourager à marcher ensemble d'un même corps, d'un même cœur, dans ta direction. Viens, Seigneur, nous guérir ensemble, entre frères et sœurs, que nous puissions nous supporter les uns les autres, nous porter les uns les autres, nous apprendre à marcher dans tes voies. Et merci pour tes promesses qui sont devant nous. Que chacun nous puissions rejoindre ce Canaan, ce pays promis. Que chacun de nous puisse retrouver les promesses qui reposent sur chacune de nos vies. Que chacun de nous puissions retrouver l'appel qui repose sur nos vies. Les dons que tu nous as donnés. Les promesses, les prophéties. Viens Seigneur. Continue de restaurer ton Église, continue de te glorifier et de nous montrer comment tu vas nous utiliser pour ta gloire. Honneur à ton nom, Dieu Tout-Puissant. Amen.